La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
La première journée du procès en destitution de Donald Trump joue les prolongations au Sénat américain.
Oui, il est un peu plus d'une heure et demie du matin à Washington. L'audience dure depuis près de 12 heures et la dernière fois que j'ai regardé, eh bien, elle n'était toujours pas terminée. Comme on pouvait s'y attendre, républicains et démocrates s'y livrent une joute, une bagarre procédurière, nous dit même le Washington Post, sur les modalités même de ce procès historique. On le rappelle, c'est le troisième seulement dans l'histoire des États-Unis. Et Donald Trump y est mis en accusation pour abus de pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Tout de même, sur cette première journée, le New York Times retient qu'elle préfigure plutôt bien ce que va être tout le procès, un affrontement bloc contre bloc des accusateurs démocrates qui livrent bataille pied à pied pour obtenir un vrai procès, obtenir l'accès notamment aux documents que la Maison-Blanche et les administrations gouvernementales bloquent, documents qui, selon les démocrates, pourraient prouver les malversations du président. Ils veulent aussi faire témoigner son entourage devant le Sénat et en face, eh bien, les républicains font bloc, on l'a dit, autour des avocats de Donald Trump. Ils ont, ce mardi, rejeté systématiquement les 9 amendements déposés par les démocrates par 53 voix, soit sans qu'aucun sénateur républicain ne fasse défection à ce stade.
On a déjà dit ici que la procédure de destitution n'avait quasiment aucune chance d'aboutir, à moins que des sénateurs républicains ne votent contre leur président. C'est donc cette éventualité qui est tout particulièrement scruté par les commentateurs du procès.
Et c'est exactement ce que nous explique Aaron Blake dans l'analyse qu'il livre au Washington Post. En fait, selon lui, les audiences comme celle qui dure encore cette nuit ne sont que de l'apparat, des fioritures pour habiller le seul véritable enjeu de tout cela, à savoir la position que vont adopter certains sénateurs républicains dont on sait qu'ils pourraient peut-être sortir du rang et voter contre leur consigne de parti qui consiste clairement à empêcher un réel procès. Ils ne sont pas nombreux, ses sénateurs, mais par exemple Aaron Blake cite Mitt Romney, que l'on connaît car il a été candidat à la présidentielle contre Barack Obama en 2012. Romney, sénateur de l'Utah, ou encore Susan Collins, élue dans le Maine, sont vus comme des modérés au sein du parti républicain, attachés au respect de la Constitution et de la vérité. Ils pourraient, c'est en tout cas ce qu'espèrent encore les démocrates, voter en leur âme et conscience pour autoriser notamment la citation comme témoin d'anciens collaborateurs de Donald Trump ou la révélation donc de documents cachés par la Maison Blanche. Leurs moindres déclarations sont donc analysées par les chroniqueurs politiques. Et le moins que l'on puisse dire en cette première journée, eh bien, c'est qu'ils ont voté le doigt sur la couture du pantalon contre toutes les demandes des démocrates. The Daily Beast note tout de même qu'ils ont réussi à forcer le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, à assouplir les règles très strictes qu'il voulait poser pour ce procès. Il voulait boucler notamment les plaidoiries des avocats en 2 jours. Il a finalement consenti à les faire courir sur 3 journées.
Clairement, ce n'est pas ça qui va faire basculer le Sénat en faveur d'une destitution, en tout cas en attendant un improbable coup de théâtre. Un mot domine les analyses, c'est celui d'ennui.
Et oui, ennui des spectateurs, mais surtout ennui des 100 sénateurs qui nous rappellent Politico sont tous tenus d'assister aux séances dans leur intégralité avant de voter et d'y assister qui plus est, c'est la Constitution qui le dit, dans le silence, sans même pouvoir boire un café ou pire encore, sans pouvoir consulter leur téléphone portable qu'ils laissent dans des casiers à l'entrée de la salle. Les journalistes de Politico remarquent d'ailleurs à quel point ce calme obligatoire dans l'hémicycle tranche avec l'agitation partisane qui avait consumé les débats à la Chambre des représentants à la fin de l'année dernière. On ne va pas se mentir, plusieurs de ces sénateurs devenus jurés du procès pour quelques jours ont été pris par les caméras en flagrant délit de somnolence. La succession interminable des avocats et de leurs arguties judiciaires à la barre a beau être un moment historique de la démocratie américaine. Il faut croire que l'histoire en marche, eh bien, c'est parfois profondément ennuyant, surtout quand un camp mène une obstruction forcenée. Et s'il y a des sénateurs pour qui cet ennui forcé est encore plus difficile à vivre, note enfin The Daily Beast, ce sont les 4 qui se disputent en ce moment la primaire du Parti démocrate en vue de la prochaine présidentielle. Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Michael Bennett devraient être en ce moment en train de multiplier les meetings à travers l'état d'Iowa où se tiendront les premiers caucus dans 2 semaines. Dans ce sprint final, le plus important c'est de rencontrer un maximum d'électeurs, d'aller chercher les voix une à une, d'autant que les sondages donnent les 5 favoris au coude à coude. Et s'il y en a qui se frottent les mains de voir donc leurs rivaux collés à leur siège du Sénat, ce sont Joe Biden et Pete Buttigieg. Eux ne sont pas sénateurs et ils ont élu carrément domicile dans l'Iowa pour les 2 semaines à venir.
Bon, rapidement, Camille, la météo.
Et oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire un peu de météo, moi aussi, pour terminer cette revue de presse? En l'occurrence, aujourd'hui, on regarde le temps prévu pour la journée en Floride, avec un coup de froid qui nous est annoncé sur le sud de la péninsule. Selon l'Agence météorologique nationale, il fait autour de 4 à 10 degrés cette nuit là-bas. Et les prévisions officielles alertent donc très sérieusement sur un risque important de chute d'iguanes.
Here's the thing, they become almost cold stunned or they go dormant once the temperature drops below 45 degrees. But people will often do it.
Cette présentatrice météo de CNN nous explique que les iguanes ont tendance à se figer en dessous de 10 degrés, à devenir catatoniques, selon le terme repris par plusieurs médias floridiens, et donc les reptiles tombent littéralement des arbres où ils vivent. D'ailleurs, en passant, la chaîne télé locale NBC 6 Miami nous apprend que les iguanes verts sont considérés comme une espèce invasive qui se multiplie dangereusement en Floride depuis plusieurs années, que la ville de West Palm Beach, par exemple, est obligée de les chasser, ce qui lui coûte près de 2 millions de dollars chaque année. Bref, il pleut des iguanes cette nuit en Floride. La nouvelle amuse beaucoup la presse internationale, il faut bien le dire, ces dernières heures. A priori, la France est épargnée par ce phénomène météo, mais je vous livre tout de même les consignes à suivre si vous trouvez un iguane gelé sur votre pelouse ce matin. Attention, il peut sembler mort, mais il est bien vivant. Il peut être agressif d'ailleurs au réveil, alors ne le touchez pas, laissez-le se réchauffer au soleil. Oui, parce qu'il va faire beau en Floride ce mercredi, enfin, entre les averses d'iguanes.